Chapitre 6e. Monsieur de Mornant, en voyant le marquis de Maillefort fermer à double tour la porte de l'appartement, avait à peu près deviné l'intention du bossu. Bientôt, celui-ci ne laissa pas le moindre doute sur sa résolution. Dénouant sa cravate, il ôta son gilet et son habit avec une prestesse singulière, à l'ébahissement croissant de Gérald, qui venait de prendre ingénument sur la cheminée son coffret à cigares. Le marquis, montrant alors du doigt deux épées de combat suspendues avec les autres armes de la panoplie, dit au jeune duc « Mon cher Gérald, ayez la bonté de mesurer ces épées avec M. de Raville, et d'offrir la plus longue à mon adversaire si elles sont inégales, je m'arrangerai de la plus courte. » Eh, on connaît le proverbe, les bossus ont les bras longs. « Comment ? » s'écria Gérald, « ces épées ? » « Certainement, mon cher ami. En deux mots, voici la chose. Monsieur, et il désigna de Mornant, vient d'être très sottement impertinent à mon égard. Il m'a refusé des excuses, et il m'en ferait à cette heure que je ne les accepterai plus. Nous allons donc nous battre. Vous serez mon témoin. Monsieur de Raville sera celui de Monsieur de Mornant. Nous allons être ici comme des sybarites. » Puis, s'adressant à Monsieur de Mornant, le marquis ajouta « Allons, monsieur, habit bas. Gérald n'a qu'un quart d'heure à nous donner. Mettons-y de la discrétion. » Quel dommage qu'Olivier ne soit pas témoin de cette bonne scène, pensa Gérald, qui, revenu de sa stupeur, trouvait, en étourdi et malheureux garçon qu'il était, l'aventure d'autant plus piquante qu'il éprouvait peu de sympathie pour messieurs de Mornant et de Raville et qu'il ressentait une grande affection pour le marquis. Le bossu ayant fait sa déclaration d'imminente hostilité, Monsieur de Raville dit à Gérald, d'un air parfaitement convaincu, « Vous sentez bien, monsieur le duc, qu'un tel duel est impossible. Impossible ? Pourquoi cela, monsieur ? » demanda sèchement l'ancien maréchal des logis au chasseur d'Afrique. « Merci, Gérald, » dit le marquis. « Les épées, mon cher ami, vite, les épées. » Mais encore une fois, un tel duel, dans la maison de madame votre mère, cela ne se peut pas, monsieur le duc. » dit de Raville en voyant Gérald se diriger du côté de la panoplie et décrocher deux épées de combat qu'il examina soigneusement. « Songez-y donc, monsieur le duc, » reprit de Raville avec une nouvelle insistance, « un duel, dans une chambre, chez vous, pour le motif le plus futile. Je suis seul juge, monsieur, de la convenance de ce qui se passe chez moi, » reprit froidement Gérald. « Il y a mille exemples de duels pareils. Rien n'est plus simple et plus commode, n'est-ce pas, monsieur de Mornant ?» Celui-ci, ainsi interpellé, répondit « Tout endroit est convenable pour venger une offense, monsieur le duc. »« Bravo !»« Le Cid n'eût pas mieux dit, » s'écria le bossu. « Allons, mon cher monsieur de Mornant, vite, habit bas. Voyez donc, il faut que ce soit moi, qui ne suis pas absolument bâti comme l'Apollon du Belvédère, qui soit le premier à me mettre en chemise. La partie n'est pas égale. » Monsieur de Mornant, poussé à bout, ôta son habit. « Je déclare que je ne serai pas témoin d'un duel pareil, » s'écria M. de Raville. « À votre aise, » reprit le bossu, « j'ai la clé de la porte dans ma poche. Regardez par la fenêtre et tambourinez-nous sur les vitres un petit air de bravoure. Ça ne sera peut-être pas d'un mauvais effet pour M. de Mornant. » « De Raville, » s'écria l'adversaire du marquis, « je t'en prie, mesure les épées. Tu le veux ? Je le veux. Soit, mais tu es fou. » Puis, s'adressant à Gérald, « Vous prenez là, monsieur, une bien grave responsabilité. »« Cela suffit, monsieur, » répondit Gérald en mesurant les épées avec de Raville pendant que monsieur de Mornant ôtait son habit. Le marquis, en rappelant ce proverbe, « Les bossus ont les bras longs », avait dit vrai, car lorsqu'il releva la manche de la chemise pour la rouler et l'assujettir au-dessus de la saignée, il découvrit un long bras velu, maigre, nerveux et sur lequel les veines saillissaient comme un réseau de cordes, tandis que le bras de son adversaire était gras et, pour ainsi dire, d'une mollesse informe. À la manière dont les deux champions tombèrent en garde et dont ils engagèrent leur fer, après que Gérald, ayant consulté de Raville du regard, leur eût dit « Allez, messieurs !» l'issue de la rencontre ne pouvait être douteuse. L'on voyait assez que M. de Mornant était, si cela peut se dire, convenablement brave. De cette bravoure, qu'il est impossible à un homme bien élevé de ne pas montrer. Mais il était visiblement inquiet. Son jeu, d'une prudence excessive, dénotait une certaine connaissance de l'escrime. Engageant à peine son fer, rompant prestement, se tenant autant qu'il le pouvait hors de portée toujours sur la défensive, Il parait passablement, ripostait avec timidité et n'attaquait jamais. Un moment, Derville et Gérald même furent épouvantés de l'expression de haine, de férocité qui changea la physionomie du marquis, jusqu'alors gaie, railleuse, mais nullement méchante, car soudain, les traits contractés par une rage sourde, il attacha sur M. de Mornant un regard d'une si terrible fixité, en maîtrisant vigoureusement le fer de son adversaire, tout en marchant à l'épée sur lui, que Gérald tressaillit. Mais redevenant tout à coup et comme par réflexion ce qu'il avait été au commencement de cette scène étrange, jovial et moqueur, le bossu, à mesure que ses traits se détendirent, ralentit sa redoutable marche à l'épée, puis, voulant sans doute terminer cette rencontre, il fit une feinte en donnant des armes. M. de Mornant y répondit ingénument, tandis que son adversaire, tirant dehors, lui traversa le bras droit. À la vue du sang qui coula, Gérald et Derville s'avancèrent en s'écriant « C'est assez, messieurs, c'est assez !» Les deux champions baissèrent leurs épées à la voix de leurs témoins, et le marquis dit à haute voix « Je me déclare satisfait. Je fais mieux, monsieur de Mornant, je vous demande très humblement pardon d'être bossu. C'est la seule excuse que je puisse raisonnablement vous offrir. » « Cela suffit, monsieur, » dit M. de Mornant avec un sourire amer, tandis que Gérald et Derville, à l'aide d'un mouchoir, bandaient la plaie du blessé, plaie peu grave d'ailleurs. Ce premier appareil posé, les deux adversaires se rhabillèrent. M. de Maillefort dit alors à M. de Mornant « Voudrez-vous, monsieur, me faire la grâce de m'accorder un moment d'entretien dans la pièce voisine ?»« Je suis à vos ordres, monsieur, » répondit M. de Mornant. « Vous permettez, Gérald ?» demanda le bossu au jeune duc. « Certainement, » répondit celui-ci. M. de Maillefort et M. de Mornant étant seuls dans la chambre à coucher de Gérald, le bossu dit de son air leste et moqueur, « Quoiqu'il soit de mauvais goût de parler de sa générosité, mon cher monsieur, je suis obligé de vous confesser qu'un moment j'ai eu envie de vous tuer, et que rien ne m'eût été plus facile. Il fallait user de votre avantage, monsieur. Oui, mais j'ai réfléchi. Et à quoi, monsieur ? Vous me permettrez de ne pas vous ouvrir tout à fait mon cœur, et de vous prier seulement de considérer cet innocent coup d'épée comme quelque chose d'analogue à ces remémoratifs à l'aide desquels on aide sa mémoire en certaines circonstances. Je ne vous comprends pas du tout, monsieur. Vous m'accordez bien que souvent l'on met un petit morceau de papier dans sa tabatière, ou si l'on ne prise pas, que l'on fait un nœud à son mouchoir afin de se rappeler un rendez-vous, une promesse. « Oui, monsieur, ensuite. J'ai donc tout lieu d'espérer que, moyennant la piqûre que je viens de vous faire au bras, en guise de remémoratif, la date de ce jour ne sortira jamais de votre mémoire. Et quel intérêt, monsieur, avez-vous à ce que je n'oublie pas la date de cette journée ? Mon Dieu, c'est bien simple. Je désirais fixer la date de ce jour dans votre souvenir d'une manière ineffaçable. Parce qu'il est possible que, plus tard, j'ai à vous rappeler tout ce que vous avez dit dans cette matinée. Me rappeler tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Oui, monsieur, tout ce que vous avez dit en présence de témoins irrécusables, que j'invoquerai au besoin. Je vous comprends de moins en moins, monsieur. Je ne vois, quant à présent, aucun avantage à ce que vous me compreniez mieux, mon cher monsieur. Vous me permettrez donc d'avoir l'honneur de vous présenter mes très humbles civilités et d'aller dire adieu à Gérald. » Il est facile de le deviner. La cause réelle de la provocation de M. de Maillefort à M. de Mornant était la façon insultante avec laquelle ce dernier avait parlé de Mme de Beauménil, car ses soupçons ne le trompaient pas. C'était le bossu qui, invisible et entendant les grossières paroles de M. de Mornant, avait crié « Misérable !» Maintenant, pourquoi M. de Maillefort, toujours d'une si franche hardiesse, avait-il dû employer un moyen détourné, se servir d'un futile prétexte pour venger l'insulte faite à Madame de Beauménil? Dans quel but voulait-il pouvoir rappeler plus tard à M. de Mornant la date de cette journée et lui demander peut-être compte de tout ce qui avait été dit devant des témoins irrécusables? C'est ce qu'éclaircira la suite de ce récit. Le marquis de Maillefort venait de prendre congé de Gérald lorsqu'un des gens de sa mère lui remit la lettre suivante qu'Olivier lui écrivait le matin même. « Mon bon Gérald, l'homme propose et Dieu dispose. Pardon de la sentence. Or donc, hier soir, le bon Dieu, prenant la forme de mon brave maître maçon, a décidé que je m'en irais pendant 15 jours ou 3 semaines, à 6 lieues d'ici. Cela me contrarie fort, car notre bonne partie d'après-demain ne pourra pas avoir lieu. Sérieusement, voici ce qui arrive. Mon maître maçon est peu fort sur le calcul. Il s'est tellement embrouillé dans ses comptes en faisant le relevé des travaux exécutés dans un château près de Luzarche qu'il lui est impossible de se reconnaître au milieu de ses notes et à moi de porter la moindre lumière dans ses ténèbres. Il faut donc que nous allions procéder à une foule de toisés, dont je prendrai note afin d'éviter de nouveaux logogriffes. Ce travail m'oblige à une assez longue absence. Du reste, mon maître maçon est un ancien sergent du génie, brave et honnête homme, simple, naturel. Et tu sais que la vie est facile avec des gens de cette nature. Ce qui m'a encore engagé à aller l'assister, c'est qu'autant que j'ai pu en juger, il se trompe à son désavantage. La chose est rare, je ne suis pas fâché d'aider à la constater. Je quitte mon bon oncle, dit Quelqu'heure d'or, avec une terrible anxiété. Madame Barbançon, ramenée chez nous par la belle voiture de la comtesse de Beauménil, est depuis hier dans un état alarmant, surtout pour les modestes repas de mon oncle. Elle n'a pas une seule fois prononcé le nom de Buonaparte. Elle est tout mystère. Elle s'arrête pensive dans le jardin et inactive dans sa cuisine. Elle nous a donné ce matin du lait tourné et des œufs durs. Donc, avis à toi, mon bon Gérald, s'il te prend en fantaisie d'aller manger à l'ordinaire du vieux marin. Du reste, évidemment, Madame Barbançon brûle du désir de s'entendre interroger sur l'incident d'hier soir, afin d'être amenée à une indiscrétion. Tu juges combien, mon oncle et moi, nous sommes au contraire réservés à ce sujet, par cela même qu'il y a quelque chose de singulier, de curieux même, dans l'aventure. Si, pendant mon absence, tu peux disposer d'un moment, va voir mon oncle, tu lui feras le plus grand plaisir, car je vais bien lui manquer. Je ne puis te dire combien il t'aime déjà. Pauvre et digne soldat, quelle ineffable bonté, quel cœur droit il y a sous cette simple enveloppe. Ah, mon cher Gérald, je n'ai jamais ambitionné la fortune, mais je tremble en pensant qu'à son âge, et avec ses infirmités, mon oncle aura de plus en plus de peine à vivre de sa petite retraite, malgré les privations qu'il supporte courageusement. Et s'il allait tomber malade, car deux de ses blessures se rouvrent souvent, et pour les pauvres gens c'est si cher la maladie. Tiens, Gérald, cette pensée est cruelle. Pardon, mon ami, mon frère. J'ai commencé cette lettre gaiement, la voici qui devient triste. Adieu, Gérald, à bientôt. Écris-moi à Luzarche, poste restante. À toi de tout et bon cœur, Olivier Raymond.